Bonsoir, Monsieur le Directeur Corbeau, Monsieur Fortin, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Guy Berthiaume et je suis président-directeur général de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir en cette quatrième conférence du cycle que nous avons conçu avec l'UQAM dans la foulée de notre entente de partenariat. La série « La Révolution tranquille, 50 ans d'héritage » est emblématique de notre volonté commune de démocratiser le savoir et la culture, et le succès que remportent nos conférences nous confirme dans notre volonté de travailler ensemble. Je remercie Normand Charbonneau, le directeur du Centre d'archives de Montréal, d'avoir retracé les sources relatives à la Révolution tranquille dans nos fonds d'archives. Un feuillet, je crois, vous a été distribué et il vous indique le chemin à parcourir pour explorer notre portail. La série de conférences sur la Révolution tranquille est rendue possible par l'appui financier du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine. Je remercie M. Pierre Pouliot, du cabinet de la sous-ministre du ministère, d'être avec nous ce soir. Je remercie également la presse, notamment M. André Pratt et Mme Christiane Dubé, de s'être associés à la promotion de la série. Grâce à l'appui de Télé-Québec et de Canal Savoir, les conférences sont diffusées sur Canal Savoir les lundis à 20h, les mercredis à 11h, les vendredis à 23h et les dimanches à 16h. La conférence de ce soir sera diffusée pour la première fois le lundi 24 mai à 20h. Belle façon de fêter le jour des Patriotes. Je remercie de leur précieuse collaboration Mme Michèle Fortin, présidente-directrice générale de Télé-Québec, M. Claude Plante, directeur général des régions, des partenariats et des affaires internationales de Télé-Québec, de même que Mme Sylvie Godbout, la directrice générale de Canal Savoir. Enfin, je remercie tout particulièrement le recteur de l'UQAM, mon ami Claude Corbeau, d'avoir été l'inspiration intellectuelle de cette série de conférences. Je lui cède maintenant la parole et je vous souhaite une excellente soirée.
Merci, M. Berthiaume, de vos propos aimables à mon endroit. Merci surtout de nous accueillir avec votre équipe dans ce lieu à la fois magnifique, convivial et chaleureux. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente M. Pierre Fortin, qui est certainement l'un des économistes québécois les plus connus. Je vous rappelle que dès 1995, l'Association des économistes québécois le désignait, et je cite, comme l'économiste québécois qui s'est le plus illustré au cours de la dernière décennie, en 1995. Et évidemment, les économistes sont des gens prudents dans leurs déclarations. Alors, Pierre Fortin est originaire de Lévis. Il appartient à ces anciennes générations québécoises, comme moi j'en suis aussi, il me pardonnera de dire ça, ces anciennes générations québécoises qui ont fait le cours classique, chez les Jésuites en plus. Sa première formation universitaire, on ne le sait pas toujours, est en mathématiques, mais il a obtenu en 1975 un doctorat en sciences économiques de l'Université de Californie à Berkeley. Il a été, depuis le début des années 70, professeur de sciences économiques, d'abord à l'Université Laval, notamment de 72 à 74 et de 76 à 88. Il a été brièvement professeur à l'Université de Montréal et, à compter de 1988, il fut professeur au département de sciences économiques de l'Université du Québec à Montréal. Il est d'ailleurs professeur émérite de notre université. Et souvent, quand quelqu'un devient professeur émérite, pour certains, c'est un peu une espèce de momification. Mais je peux vous assurer que cela ne s'applique pas du tout dans le cas de Pierre Fortin. Il a beaucoup travaillé au cours de sa vie. Il a une production scientifique forte et importante, dizaines de livres, 200 quelques articles, une quarantaine de rapports auxquels il a été, dans lesquels il a été impliqué, rapports pour des organismes publics ou privés, chroniqueur à la revue L'Actualité, conférencier, grand savant respecté de ses pairs, mais en même temps, sur la base de son intérêt pour les fluctuations économiques, politique monétaire et finances publiques, sur la base de ses intérêts scientifiques en sciences économiques, il s'est aussi beaucoup engagé dans le milieu, dans les sociétés savantes regroupant des économistes, comme consultant, comme administrateur de société et aussi comme conseiller auprès de gouvernement. Il fut notamment conseiller économique du premier ministre René Lévesque au début des années 80. C'est un intellectuel au sens fort du terme, c'est-à-dire un savant dans sa discipline et maintenant est aussi quelqu'un qui s'implique dans les débats de la cité. Alors, il est particulièrement bien placé pour nous parler de l'économie au moment de la Révolution tranquille. Et je vous invite à accueillir le professeur Pierre Fortin. Merci.
Merci beaucoup, M. Berthiaume, M. Corbeau. Je remercie aussi la Ligue nationale de hockey qui a eu la brillante idée de reporter à demain la dernière partie de la série quart de finale entre le Canadien et les Pingouins. Je veux commencer par vous dire que je vous fais une présentation qui sera assez dense, assez concentrée. Et que je vais suivre assez mot à mot le texte que j'ai écrit de manière à éviter les longueurs. Donc, en gros, ça devrait prendre 40 à 45 minutes la présentation. La première chose qui va vous frapper en regardant l'écran, c'est que la Révolution tranquille qui a frappé le Québec comme un torrent en 1960, ça n'a pas fait l'unanimité. Et c'est pas tout le monde qui s'y attendait, comme vous pouvez le constater. On perçoit habituellement l'avènement de la Révolution tranquille comme sonnant le réveil économique du Canada français. Ça allait plutôt mal avant et ça s'est mis à aller mieux après. Je partage cette opinion. Mais avec une nuance, je vais montrer que le réveil n'a commencé à porter ses fruits que depuis 20 ans, depuis 1990. Mais l'idée que ça n'allait pas bien avant a commencé à porter ses fruits. Ça ne fait pas l'unanimité. Où est-ce que nous étions avant 1960? Mon confrère et ami Jean-Luc Miguet a écrit il y a une douzaine d'années de toute son histoire moderne depuis la fin du 19e siècle, le Québec a vécu une croissance forte parallèle à celle de l'Ontario. La période immédiatement antérieure à la Révolution tranquille se distingue même comme l'une des plus prospères de toute l'histoire. Cette affirmation de Jean-Luc contient deux inexactitudes qu'on peut corriger avec des données maintenant qui sont plus récentes. Alors, la diapo qui suit, celle-ci, vous montre l'évolution du rapport entre le revenu réel par habitant, le niveau de vie du Québec et celui de l'Ontario de 1926 à 1961, donc une période très longue. Alors, on observe premièrement sur cette trajectoire-là. Alors, quand la ligne monte, ça veut dire que le Québec va mieux que l'Ontario. Quand la ligne baisse, c'est que l'Ontario va mieux que nous. On observe que loin d'être parallèle à celle de l'Ontario, comme le dit Jean-Luc, en 1929, le Québec tirait de l'arrière par seulement 10 % sur l'Ontario. Mais en 1946, le retard avait grimpé à 21 %. On a pris une drop importante pendant la crise et la guerre. Deuxièmement, il est vrai que de 1946 à 1960, l'économie du Québec progressait bien dans l'ensemble, étant portée par l'expansion nord-américaine, mais l'Ontario avançait aussi vite, de sorte que la courbe ne montait ni ne baissait. Elle s'en allait relativement horizontalement. De sorte que sous le régime Duplessis, qui est les années 46-60, le Québec n'a jamais réussi à regagner le terrain perdu avant 1945. Donc, c'est pas vrai que les trajectoires étaient parallèles. On avait perdu beaucoup. Et deuxièmement, on ne récupérait pas par la suite sous Duplessis. Ce n'est pas la seule indication de la faiblesse comparative de l'économie québécoise de l'époque. En Ontario, le taux d'emploi, c'est-à-dire la proportion de la population de 15 à 64 ans qui est au travail, était passé de 59 % en 1930 à 63 % en 1961, donc 4 unités de pourcentage d'augmentation. Or, le Québec, lui, que vous voyez en bas, avec la ligne du bas, avait connu, à cette période-là, le mouvement complètement inverse. Parti du même taux de 59 % de taux d'emploi, il avait chuté au contraire à 54 %. Alors, plutôt que gagner 5 points, on en a perdu 4, on en a perdu 5. Cette faiblesse, cette baisse-là, c'est une baisse qui est considérable. Dans les termes de 2010, par exemple, ça équivaudrait à une perte de 160 000 emplois pour nous. Notre population active se féminisait, mais elle le faisait plus lentement que l'Ontario et avec un retard croissant à mesure que la décennie 1950 avançait. La pénurie d'emplois était flagrante. Elle fut par la suite une des grandes préoccupations du gouvernement Lesage. Alors, vous voyez sur la diapo ici, la tendance à la féminisation de la population active du Québec, elle est inférieure à celle de l'Ontario, surtout pendant les années 50. La scolarisation, évidemment, n'aidait pas. En fait, en 1960, seulement un tiers de nos jeunes adultes de 25-34 ans avaient un diplôme en poche, contre plus de la moitié en Ontario. Vous voyez, 66 % des Québécois de 25-34 ans avaient aucun diplôme. Donc, un tiers seulement en avait un. Et en Ontario, plus que de la moitié en avait un. Et seulement 5 % des jeunes de cet âge avaient un diplôme universitaire au Québec, et c'est moitié moins qu'en Ontario à l'époque. Il est vrai que notre fréquentation scolaire avait commencé à augmenter dans les années 1950. Comme vous pouvez voir, on était à 76 % sans diplôme en 1950, et on est descendu, on a réussi à descendre ce pourcentage-là à 66 %. Donc, la fréquentation scolaire avait commencé dans les années 50, mais évidemment, le retard à combler était encore très grand. La diapo suivante montre qu'en 1961, la situation économique des Canadiens français du Québec, comme on les appelait à l'époque, n'était pas différente de celle des Noirs américains. Les hommes noirs complétaient 11 années à l'école et nous, les Canadiens français, 10 années, soit une année de moins à l'école que les Noirs américains. Le salaire moyen des hommes noirs américains équivalait à 54 % de celui des hommes blancs américains. Au Québec, le salaire moyen, pendant ce temps-là, des hommes francophones unilingues équivalait seulement à 52 % de celui des hommes anglophones, qu'ils soient bilingues ou unilingues. Lorsque l'écrivain Pierre Vallière nous a appelés « nègres blancs d'Amérique » en 1968, on l'a évidemment tout de suite accusé d'exagérer. Mais en fait, il clamait l'exacte vérité. La position relative des nôtres n'était pas meilleure que celle des Noirs américains. Et il faut donc, à mon avis, maintenant, de toute urgence, réhabiliter Vallière. Comment les finances du Québec, les finances publiques du Québec se comparaient à l'époque à celles de l'Ontario? Cette diapo-là permet d'y voir plus clair. Si on consolide les budgets provinciaux et municipaux ensemble, ce qui est nécessaire parce que quand on veut comparer Québec-Ontario, comme les responsabilités, les compétences ne sont pas les mêmes dans les deux provinces, il faut regarder la somme des deux. On arrive à la conclusion que l'État québécois taxait et dépensait un peu plus que son pendant ontarien en 1961. Alors, vous voyez, les revenus au Québec, 12,7 % du revenu intérieur, en Ontario 11, donc on avait un point de plus de dépenses, de revenus, et c'est la même chose pour les dépenses, on avait un point de plus de dépenses qu'en Ontario. Donc, c'est pas vrai que l'État québécois était plus petit en soi que l'État ontarien. Cependant, la dette accumulée par la province était beaucoup moins lourde chez nous que chez notre voisin. Fin 61, elle équivalait à 14 % du revenu intérieur du Québec, au Québec, et à 21 % en Ontario. La conséquence au Québec était des infrastructures provinciales honteusement déficientes en santé, en éducation, en culture et en transport. On fait valoir parfois que le faible niveau d'endettement de la province serait une sorte de cadeau que Maurice Duplessis aurait fait aux révolutionnaires tranquilles. Il s'agit évidemment ici d'un sophisme. Le cadeau de Duplessis fut le retard à investir dans ces infrastructures et les conséquences négatives que cela a entraînées pour notre développement. C'était un cadeau de grec. Puis évidemment, la référence à la Grèce, dans le moment, est tout à fait bienvenue. En résumé, donc, dans les années 50, donc je regarde où est-ce que nous étions quand on est arrivé en 1960, L'économie québécoise était portée par l'expansion nord-américaine et elle progressait à peu près au même rythme par habitant que l'économie ontarienne. Mais nos salaires et notre niveau de vie, qui avaient dégringolé antérieurement pendant la crise et la guerre, restaient encore bien inférieurs et ne manifestaient aucun signe de rétablissement. Le taux d'emploi de nos hommes se détériorait et celui de nos femmes accusait un retard croissant sur celui des femmes ontariennes qui rentraient dans la population active à un rythme assez rapide. Nos jeunes étaient terriblement sous-scolarisés. Le sort des francophones du Québec était comparable à celui des Noirs américains. L'État québécois n'était pas inactif, mais il sous-investissait gravement dans les infrastructures. Qu'avons-nous accompli depuis cette époque? Il faut évidemment prendre l'opinion chargée d'émotions de Gazette avec un grain de sel. Il était inévitable, même dans les années 60, que la Révolution tranquille ne fasse pas l'unanimité. Ce furent en quelque sorte les quatre R. Dans le cas de Trudeau et de Gazette, ça a été le rejet. Dans le cas de Vallière, la révolte. Dans le cas de Jean Lesage, la réforme. Et dans le cas de René Lévesque, le rêve, donc les quatre R. Voyons cela de plus près. Le discours du budget présenté par Jean Lesage en avril 1962 explique avec une clarté remarquable les intentions de son gouvernement en ce qui concerne l'économie. On lit dans ce discours « Nous constituons une minorité ethnique qui a pu survivre, mais dont la puissance matérielle est loin de correspondre à celle de nos compatriotes de langue anglaise. Dans certains domaines, nous avons accumulé des retards d'au moins une génération. C'est pour cette raison que nous devons tant faire aujourd'hui et que nous devons faire si vite. Nous possédons un levier commun, notre État du Québec. Nous serions coupables de ne pas nous en servir. Notre triple objectif est d'améliorer la culture et l'éducation, d'instaurer un meilleur niveau de santé et de bien-être et de favoriser le progrès économique de la province. Le gouvernement Lesage, donc, voulait mettre l'État québécois au service de plusieurs fins. Premièrement, le développement scolaire. Deuxièmement, le développement économique. Puis évidemment, le développement scolaire, il y a des conséquences économiques, c'est pour ça que je le mets dans batch. Troisièmement, l'épanouissement des francophones économiques. Quatrièmement, le développement social, c'est-à-dire répartir équitablement la richesse. Dès le départ, on procéda à une réforme en règle de la fonction publique et des réseaux de l'éducation, de la santé et des services sociaux. Coup sur coup apparurent l'assurance hospitalisation, les allocations scolaires, les écoles polyvalentes, le régime de rente du Québec et plusieurs sociétés d'État comme la Société générale de financement, la SIDBEC, la sidérurgie québécoise, la Société d'exploration minière et la Caisse de dépôt et placement vers la fin. L'électricité fut nationalisée. De 1960 à 1966, les dépenses provinciales triplèrent en 6 ans et le fardeau des taxes provinciales doubla. Cela valut à Jean Lesage le sobriquet de « Petit Jean la taxe » et contribua assurément à sa défaite en 1966. Au grand étonnement de tous, le gouvernement Johnson décida ensuite qu'il valait mieux poursuivre les réformes entreprises que de retourner en arrière. La suite est connue. De 1966 jusqu'à aujourd'hui, ce furent successivement les allocations familiales, l'assurance maladie, l'aide sociale, les cégeps, l'Université du Québec, plusieurs nouvelles sociétés d'État, comme Sokip, Sokia, Roxford, Alouette, le projet hydroélectrique de la baie James, les lois linguistiques, les sommets économiques, l'appui multiforme au financement des entreprises, les privatisations ensuite, l'appui au libre-échange, la multiplication des crédits d'impôt et, tout récemment, l'allègement de la fiscalité des entreprises. L'activité de l'État, comme vous pouvez voir sur la diapo, donc, s'est considérablement accrue. Pendant la période des 45 dernières années, l'État a continué à grandir. Donc, depuis 65-66, l'État a continué à grandir. Les dépenses publiques provinciales et municipales ont occupé une part croissante de l'activité économique au Québec. Immobilisation comprise, de 1961 à 2007, elles sont finalement passées de 13 % à l'époque à 34 % de notre revenu intérieur. Le Québec et ses municipalités dépensent ainsi 30 milliards de plus chaque année que s'ils dépensaient au même rythme que c'est le cas en Ontario présentement. La dépense en services publics au Québec est donc beaucoup plus élevée. La diapo suivante montre que les années 70 à 85 furent l'âge d'or des sociétés d'État. Leur chiffre d'affaires total a grimpé jusqu'à 10 % du revenu intérieur en 1985. Le repli très apparent qui a suivi, c'est-à-dire vous voyez que la courbe redescend après 1985, ça découle de trois considérations. Pourquoi les gouvernements, par la suite, ont réduit l'implication des sociétés d'État? La première raison, c'est que leur tâche d'intégration économique des francophones comme cadres ou entrepreneurs était en gros complétée. La deuxième considération est qu'on avait fini par réaliser, comme a dit Jacques Parizeau, que l'État producteur n'a rien d'impressionnant. Que le gouvernement produise du sucre, de l'acier, du poisson, de l'amiante ou opère une ligne d'aviation commerciale nous donnait l'air d'une république de bananes. La troisième considération est que l'ère du temps s'ouvrait au libre-échange, rendant moins nécessaire l'intervention directe de l'État sur les marchés pour contrer les barrières au commerce. C'est l'appui au financement des entreprises, la diapo suivante, qui a surtout marqué l'intervention de l'État québécois à partir du milieu des années 70. Les principaux intervenants publics ont été la Caisse de dépôt, la SGF, la Société de développement industriel, qui est devenue plus tard Investissement Québec, et les fonds fiscalisés, comme le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec et le Capital régional des Jardins, Fonds d'action de la CSN. La fiscalité a joué un rôle de plus en plus important avec le régime d'épargne-action, un large éventail de crédits d'impôt et de déductions fiscales, et tout récemment, l'élimination de la taxe sur le capital. La diapo que vous voyez établit à 2 % du revenu intérieur en 2007, c'est-à-dire 6 milliards de dollars. Le revenu intérieur du Québec, c'est 300 milliards. C'est le fun, c'est un chiffron, c'est assez facile à calculer. 2 % du revenu intérieur, donc c'est 2 % de 300, fait 6 milliards. Le montant des subventions directes de Québec et de ses municipalités aux entreprises. Ce montant lui-même sous-estime l'envergure véritable de l'aide financière aux entreprises, puisqu'il n'inclut ni les dépenses fiscales, ni les réductions de taux d'intérêt sur les prêts, ni le coût des garanties de prêts. La nationalisation définitive de l'électricité en 1963, je dis définitive parce que la première nationalisation a eu lieu en 1944 sous M. Godbout, que René Lévesque a passionnément soutenu, a été très profitable pour le Québec. En 1973 puis en 1978, l'explosion du prix du pétrole a entraîné un renchérissement de toutes les sources d'énergie, y compris de l'électricité. 10 ans après la nationalisation au prix de 600 millions de dollars, Hydro-Québec valait soudainement, grâce à Dieu et à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, plusieurs milliards de dollars en raison de sa capacité d'obtenir un prix beaucoup plus élevé pour son énergie. Du côté des grands avantages de la nationalisation, on peut donc ranger cet énorme gain en capital, mais aussi son coup de pouce à l'essor du génie conseil francophone, la facilitation ultérieure du méga-projet de la baie James. Une petite compagnie d'électricité n'aurait jamais pu faire ça, mais une grosse pouvait. Et sa contribution à la régulation de la conjoncture économique par une accélération de ses investissements quand l'économie était en récession. Donc, c'est une espèce de stabilisateur économique Hydro-Québec. La possibilité de subventionner les industries énergivores comme les alumineries et de les attirer au Québec est un autre avantage, du moins pour les travailleurs qualifiés des régions qui bénéficient directement de ces investissements. Mais il y a des difficultés. Premièrement, il n'y a aucune preuve que l'implantation des alumineries subventionnées au Saguenay et sur la Côte-Nord a fait augmenter le taux d'emploi global de ces régions depuis 30 ans. Aucune preuve. La main-d'œuvre employée étant hautement qualifiée, donc peu susceptible de chômer dans n'importe quel contexte économique, l'impact net sur l'emploi local n'est pas très important. De plus, en versant des salaires très élevés, les alumineries retiennent le développement normal des nouvelles PME, lesquelles ne peuvent tout simplement pas soutenir la concurrence de ces très hauts salaires. Deuxième difficulté, la vente à rabais de l'électricité aux alumineries constitue un cadeau de plusieurs centaines de millions de dollars par année des contribuables, des généreux contribuables québécois aux actionnaires étrangers de ces entreprises. Troisièmement, des analystes ont noté un relâchement dans le contrôle des coûts d'Hydro-Québec, phénomène qui caractérise tous les monopoles. L'actuaire et financier Claude Garcia a récemment estimé à 2 milliards de dollars la perte financière annuelle encourue par Hydro-Québec en raison de sa faible efficacité dans les opérations courantes et dans la gestion de ses projets d'immobilisation. Cette estimation est peut-être exagérée, je ne sais. Mais même divisée par 4, une telle perte serait encore de 500 millions par année, ce qui serait un chiffre énorme. Il va falloir examiner ça de plus près. Quatrième difficulté, la politisation des décisions d'immobilisation d'Hydro-Québec est dangereuse. Elle augmente la probabilité d'erreurs économiques importantes, majeures. À l'heure actuelle, on se demande, par exemple, si le prix de l'électricité à moyen et long terme en Amérique du Nord permet de justifier les coûteux nouveaux investissements que le gouvernement du Québec a pressé Hydro-Québec de faire sur les rivières de la Côte-Nord. Si le kilowattheure tiré des nouveaux complexes nous coûte 10 cents, mais que nous ne pouvons le vendre qu'à 6 ou 7 cents, comme plusieurs le pensent, cela nous fera perdre 1 milliard de dollars pour la durée du contrat récent signé avec le Vermont pour 26 ans. Ce sera encore un cadeau de ces généreux Québécois aux riches Américains. Enfin, cinquièmement, la sous-tarification d'électricité entraîne une consommation excessive de cette énergie au Québec. Le fait, par exemple, de payer l'électricité 2 cents de moins le kilowattheure incite les Québécois à consommer de 15 à 20 milliards de kilowattheures de plus par année, soit l'équivalent de ce que pourraient produire 6 complexes hydroélectriques ayant l'envergure de l'aménagement de l'East Main 1 ou l'East Main 1. En somme, il n'y a aucun doute que la nationalisation de l'électricité a procuré un gain énorme au Québec. Mais il faudrait voir si une trop grande partie de ce gain n'aurait pas été dilapidée et si on ne pourrait pas mieux gérer cet avantage extraordinaire. La diapo que vous voyez maintenant sur les immobilisations d'Hydro-Québec souligne l'énormité de l'investissement des années 1970 dans le complexe La Grande. Aujourd'hui, un projet qui aurait la même envergure représenterait un investissement de plus de 40 milliards de dollars. En comparaison, les projets East Main 1 et East Main 1A, qui sont les projets actuels, sont des nains. Comme on peut constater sur l'image, ils arrivent tout au bout. On a commencé par Bessemer, après ça Manic-Outarde, après ça la grosse Baie James, la moyenne Baie James et puis East Main. Par ailleurs, si le projet La Grande a injecté des sommes énormes dans l'économie du Québec, il n'a malheureusement eu aucun effet véritable sur le taux de chômage au Québec. Au contraire, comme on le voit sur la diapo suivante, pendant la durée des travaux, l'excédent de la trajectoire que vous voyez là, c'est l'excédent du taux de chômage du Québec sur l'Ontario. C'est-à-dire quand c'est autour de 4, ça veut dire que notre taux de chômage est 4 % plus élevé qu'en Ontario. Quand c'est zéro, bien là, on est au même niveau que l'Ontario. Okay. Alors, on voit très bien sur la diapo suivante que cette diapo-là, que pendant la durée des travaux, l'excédent du taux de chômage du Québec sur l'Ontario a pris beaucoup d'ampleur pour finalement atteindre un sommet de 3 puis 4 %. La cause probable de cette anomalie et l'explosion extraordinaire des salaires au Québec de 1975 à 1982, laquelle a porté le salaire moyen du Québec bien au-dessus de la productivité fondamentale de l'économie. Comme on peut voir sur l'image, notre salaire ce que l'image montre, c'est le rapport entre le salaire au Québec et le salaire en Ontario. Et quand cette trajectoire-là dépasse la ligne rouge, ça veut dire que les salaires au Québec en moyenne, sont supérieurs au salaire en Ontario. Alors, comme on peut voir, notre salaire hebdomadaire moyen a même été égal ou supérieur à celui de l'Ontario pendant 11 années consécutives, de 1975 à 1985. Bien qu'un salaire élevé soit merveilleux pour ceux qui réussissent à conserver leur emploi. Il a été destructeur d'emplois et de production parce qu'il a dépassé la productivité sous-jacente de l'économie. Or, l'ascension des salaires au Québec pendant cette période a justement constitué une anomalie macroéconomique grave. Mon estimation personnelle est qu'elle a détruit une cinquantaine de milliers d'emplois au Québec jusqu'à la fin des années 80 et fait perdre cumulativement une centaine de milliards de dollars aux Québécois, une centaine de milliards de dollars de moins en revenus aux Québécois. L'élan considérable des dépenses du Québec est que ces municipalités et de ces municipalités a exigé une augmentation correspondante des quatre sources de revenus de l'État québécois. La taxation, les revenus de placement, y compris les sociétés d'État, les transferts fédéraux, les emprunts ajoutant à la dette. Les diapos suivantes montrent les contributions respectives de chacune de ces sources. Toujours en comparaison avec l'Ontario. Premièrement, le taux global de taxation, c'est tout ce qu'on paie en impôts au Québec et à ses municipalités en proportion de notre revenu total au Québec, s'est passé de 10 % du revenu intérieur en 1961 à 25 % en 2007, et c'est maintenant 5 % de plus que les 20 % qui sont payés en Ontario. Ça équivaut à un excédent annuel de 15 milliards de dollars de payés de plus au Québec qu'en Ontario proportionnellement, évidemment pour les dépenses supplémentaires, les services publics additionnels proposés. Deuxièmement, les revenus de placement ne se sont guère démarqués de ceux de l'Ontario jusque vers le milieu des années 90. Depuis 15 ans, cependant, ils ont connu un essor important à mesure que le gouvernement a cherché à extraire des revenus croissants de ces entreprises d'État, surtout Hydro, l'Auto-Québec et la Société des alcools. Troisièmement, les transferts fédéraux, qui sont surtout constitués des paiements fédéraux au titre de la santé, de l'éducation, de l'aide sociale, de la péréquation, ont atteint en moyenne 5 % du revenu intérieur du Québec et 2,5 % de 71 à 95. Et se sont ensuite repliés. Mais vous voyez que ça a commencé à se replier même au milieu des années 80, ce qui nous a valu la savoureuse expression de fédéralisme prédateur de la part du non moins savoureux ministre des Finances, Gérard Delévesque. Enfin, quatrièmement, le service de la dette au Québec est lui aussi plus élevé qu'en Ontario. L'écart entre les taux d'intérêt sur les obligations québécoises et ontariennes a diminué avec le temps. Dès les années 60, le gouvernement du Québec a réussi à s'affranchir du contrôle des vieux syndicats financiers sur son coût d'emprunt. Par la suite, la Caisse de dépôt a joué un rôle de régulateur du marché des obligations. La diapo montre qu'en fin de compte, le Québec a accumulé une charge d'endettement beaucoup plus importante que l'Ontario. Cela découle en partie du fait que le Québec a voulu effectuer les mêmes investissements en infrastructure que l'Ontario, mais avec un revenu intérieur de 40 à 50 % plus faible que l'Ontario selon l'époque. En 2007, notre service de la dette provinciale et municipale consolidée nous a coûté 8 milliards de plus que si nous supportions le même poids d'endettement que l'Ontario. Nous sommes allés à l'école. Est-ce que cette implication massive de l'État québécois dans l'économie qui vient d'être décrite, ça a donné des résultats et ça a permis d'atteindre les objectifs recherchés? Absolument et dans une large mesure. La diapo que vous voyez révèle que du Québec, de l'Ontario et des États-Unis, c'est le Québec qui a enregistré le progrès de scolarisation le plus important des trois depuis 50 ans. De 61 à 2001, la durée du parcours scolaire complété par les jeunes adultes a augmenté en gros de 5 années au Québec, de 3 années et demie en Ontario et de 1 année aux États-Unis. Le Québec a maintenant presque rattrapé l'Ontario en scolarité moyenne et il dépasse les États-Unis. La diapo suivante compare la scolarité des jeunes au Québec et en Ontario selon le plus haut diplôme obtenu en 2006. Il en ressort que le Québec tire encore de l'arrière sur l'Ontario en deux dimensions. Premièrement, son taux de sans-diplôme est plus élevé. 12 % des jeunes de 25-34 ans n'ont pas de diplôme au Québec, contre 9 % en Ontario. Et deuxièmement, son taux de diplomation universitaire est plus faible, 27 % contre 33 %. C'est parce qu'il est très fort au niveau collégial, professionnel et technique que le Québec affiche une performance globale en nombre moyen d'années complétées très voisine de celle de l'Ontario. Ce phénomène est important à noter. Notre secondaire professionnel et notre cégep technique se sont avérés de puissants accélérateurs de scolarisation. Il est enfin intéressant d'observer que l'enquête internationale effectuée par l'OCDE en 2006 a classé les enfants du Québec tout près du sommet mondial en performance en mathématiques, devant ceux de l'Ontario et loin devant ceux des États-Unis et de la France. Notre système d'éducation, donc, ne doit pas tout avoir faux. Nous avons pratiquement rattrapé l'Ontario en niveau de vie maintenant. Le graphique résume l'évolution du niveau de vie au Québec relativement à l'Ontario. C'est le même qu'antérieurement, que j'avais regardé de 1929 à 1961. Et là, je le pars de 61 et je l'amène jusqu'en 2008. Donc, encore une fois, c'est décrit le rapport entre le revenu par habitant du Québec et celui de l'Ontario pendant cette période de presque 50 ans. On observe quelques fluctuations dans le temps, notamment de 73 à 95, à 85, il y a une bulle là, pendant le boom de la baie James. C'est le boom de la baie James. On voit aussi que le niveau de vie du Québec a vraiment commencé à remonter la côte seulement depuis 1990 et que la remontée a été très rapide depuis. De 81 % qu'il était en 1989, le rapport entre le revenu par habitant au Québec et en Ontario a grimpé à 92 %. Le retard du Québec a donc fondu de près de moitié. On était à moins 19, on est rendu à moins 8. En fait, la majeure partie de l'écart de 8 % qui reste est volontaire, en ce sens que les Québécois acceptent volontiers un revenu monétaire moindre afin de se payer plus de temps libre. Autrefois, nous travaillions plus d'heures que les Ontariens, mais aujourd'hui, en Amérique, c'est au Québec qu'on travaille le moins d'heures par semaine, le moins de semaines par année et le moins d'années dans la vie active. Bien évidemment, si le temps passé hors travail est choisi librement, sa valeur réelle pour le bien-être doit être supérieure aux revenus auxquels on renonce à cette fin. Si on ajoute, par conséquent, aux revenus monétaires la valeur du temps libre ainsi calculée, on trouve qu'en 2008, le niveau de vie total des Québécois équivalait à 99 % de celui des Ontariens. La parité avec l'Ontario en niveau de vie, c'est donc pratiquement un fait accompli. Pourquoi est-ce seulement depuis 1990 que l'écart de niveau de vie avec l'Ontario a commencé à se refermer pour de bon? Bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que le lien entre emploi et scolarité est très étroit. Or, scolariser une génération, ça prend du temps. Et par conséquent, l'effet sur l'emploi est venu avec un long délai. Deuxièmement, il a fallu aussi laisser le temps aux entrepreneurs francophones et allophones d'émerger et de remplacer peu à peu notre vieille élite anglophone qui avait malheureusement quitté. Troisièmement, comme j'ai mentionné il y a un instant, les années 70 à 85 ont été marquées par des tensions sociales sérieuses qui ont entraîné une grave détérioration du marché de l'emploi. Quatrièmement, l'émulation engendrée par la mondialisation a métamorphosé la sociologie du monde des affaires québécois, mais n'a commencé à jouer vraiment qu'après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange en 1989. Alors, vous avez la trajectoire des exportations. Il y a eu une augmentation importante des années 90, repli avec l'appréciation du dollar canadien, mais on est encore très au-dessus de où on était dans les années 80. Alors, comment nous sommes-nous enrichis, donc? Comment c'est venu cet enrichissement-là? Bien, l'enrichissement a deux sources. Ou bien le pourcentage de nos gens qui sont au travail augmente, ou bien chaque travailleur, chaque personne au travail produit plus pendant ses heures d'ouvrage. Deux façons de... Ou bien on met plus de monde à l'ouvrage, ou bien chacun travaille plus pendant qu'il travaille. Parce que soit il est plus compétent, soit il a des meilleures idées, soit il dispose d'un meilleur équipement, ou que le travail est mieux organisé. C'est essentiellement l'amélioration du premier élément, notre taux d'emploi, et non du second, notre production par travailleur, qui a permis que nous rattrapions l'Ontario depuis 20 ans. Le niveau croissant d'éducation a fouetté le taux d'emploi, particulièrement celui des femmes. La diapositive suivante montre que la féminisation de la population active du Québec s'est poursuivie à travers les décennies. C'est « You've come a long way, baby ». Cette diapo-là montre que les Québécoises ont maintenant complété leur rattrapage. Ils sont rendus ici, ce rapport-là, c'est combien de femmes il y a dans la population active par tranche de 100 hommes, ou comme mes étudiants disent, par tranche de 100 hommes. Okay? Alors, on est rendu à peu près à 90 femmes pour 100 hommes dans la population active. On a souvent fait observer que la part du Québec dans l'investissement au Canada est inférieure à sa part dans la population active canadienne. On en déduit que le Québec sous-investit. L'observation est exacte que notre part dans l'investissement au Canada est inférieure dans notre part de la population active, mais la déduction est erronée. Quand la démographie est lente, comme au Québec, on n'a pas besoin d'ajouter autant de bâtiments, de machines ou de logiciels, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'investir autant chaque année pour équiper les nouveaux travailleurs puisqu'ils sont moins nombreux. C'est pourquoi, comme on voit sur la diapo suivante, les travailleurs québécois disposent en fait d'autant de capital productif que les travailleurs ontariens, même s'il y a moins d'investissements au Québec. Il est vrai que l'investissement, comme vous pouvez voir sur le graphique, que l'investissement dans le complexe de la Grande, de la Baie-James, à lui seul, a beaucoup contribué à améliorer les choses pour le Québec pendant les années 75-80, mais la diapo indique que la comparaison avec l'Ontario, qu'elle représente, nous est restée favorable même 25 ans après la fin du projet. Si le Québec accuse encore un retard, c'est dans la composition de ses investissements, et non pas dans l'investissement total, plutôt que dans le niveau total, justement. Nous investissons relativement plus en bâtiments et travaux de génie qu'en machinerie et technologies d'information et de communication. La situation comparative du Québec en machinerie et en TIC s'améliore peu à peu, mais ce n'est pas encore complètement à niveau avec l'Ontario. La diapo suivante montre que, tout compte fait, l'Ontario et le Québec sont nés à nez en matière de production par heure travaillée. C'est-à-dire que l'économie québécoise est aussi productive maintenant que l'économie ontarienne. On voit cependant que les deux provinces canadiennes affichent un rendement très inférieur à celui des États-Unis. Leur retard commun à la gauche, là, c'est de 22 %, donc ils sont tous les deux à 78 % des États-Unis. Une bonne partie de ce retard a été accumulée depuis l'an 2000. Pendant que la productivité augmentait de 6 à 8 % en Ontario et au Québec, elle avançait de 17 % aux États-Unis. Notre sous-productivité est réelle, mais elle n'est pas un phénomène spécifiquement québécois. Le mal est canadien. En fait, les 7 provinces canadiennes qui ne produisent pas de pétrole ou de gaz naturel, Ontario, Québec et Colombie-Britannique compris, font toutes partie des 10 derniers rangs en productivité et en niveau de vie parmi les 60 États d'Amérique du Nord, en compagnie de la Virginie-Occidentale, de l'Arkansas et du Mississippi. Comme ne cesse de le marteler la présidente du mouvement Desjardins, Monique Leroux, il ne fait aucun doute que notre grand défi économique au cours des prochaines décennies est de nous démarquer des autres provinces canadiennes en productivité. On leur souhaite bonne chance, eux autres aussi, évidemment, c'est nos compatriotes, et de partir à la chasse de la productivité américaine. Ce sera en fait la voie royale pour continuer à relever notre niveau de vie, puisqu'il y aura une limite à la hausse que nous pourrons imprimer à notre taux d'emploi afin de contrer le ralentissement démographique. Nous sommes beaucoup plus maîtres chez nous maintenant. Un objectif fondamental de la Révolution tranquille était de favoriser la maîtrise de l'économie par les Canadiens français. La diapo indique que l'amélioration de la position relative des francophones dans notre propre maison a été fulgurante depuis 1960. Cette année-là, la rémunération des hommes francophones unilingues équivalait à 52 % de celle des anglophones bilingues ou unilingues. 40 ans plus tard, en 2000, le rapport entre les rémunérations de ces deux groupes avait grimpé à 76 %. Les francophones bilingues, eux, gagnent maintenant autant que les anglophones bilingues et 15 % de plus que les anglophones unilingues. Les entreprises francophones contrôlent aujourd'hui les deux tiers de l'emploi au Québec contre moins de la moitié en 1960. Nous sommes beaucoup plus maîtres chez nous aujourd'hui qu'à l'époque. La répartition du revenu maintenant. De 1960 à 1966, le développement social et le partage équitable de la richesse revenaient constamment dans les discours du gouvernement Lesage. Après 50 ans, force est de constater que le Québec est au sommet de l'Amérique du Nord dans cette dimension. Le taux de pauvreté absolu et le degré d'inégalité du revenu disponible en toutes les classes de la société sont plus bas chez nous que partout ailleurs sur ce continent. Le plus riche 1 % de la population absorbe 11 % du revenu total au Québec, mais 15 % au Canada, hors Québec, et 24 % aux États-Unis. Les riches du Québec ne sont pas seulement beaucoup moins riches, mais sont aussi plus taxés qu'ailleurs en Amérique du Nord, parce que le système fiscal québécois est le plus progressif de tous. Je ne veux pas pleurer sur le dos des riches, là, mais il faut garder le sens des proportions. Dans le monde du travail, maintenant, les lois du Québec reflètent un préjugé favorable au syndicalisme. Le taux de couverture syndicale a considérablement augmenté au Québec juste après la promulgation du Code du travail de 1964, qui accordait la syndicalisation universelle aux employés de l'État québécois, les fonctionnaires et les réseaux de l'éducation et de la santé. Depuis 25 ans, ce taux de syndicalisation au Québec se maintient autour de 40 % de l'ensemble des salariés. C'est le niveau le plus élevé d'Amérique du Nord. Par contre, il faut prendre acte du fait que plus de la moitié des syndiqués maintenant, que la majorité des syndiqués font partie du tiers le plus riche des salariés. La majorité des syndiqués font partie du tiers le plus riche des salariés maintenant. Et par conséquent, les syndiqués québécois d'aujourd'hui ne sont pas surtout des travailleurs pauvres. Au bas de l'échelle, la politique québécoise du salaire minimum a connu des hauts et des bas. La recherche d'un niveau qui serait optimal en ce sens qu'il soutiendrait le revenu des travailleurs concernés, mais sans détruire les emplois qui leur sont accessibles, n'a pas été facile. Aujourd'hui, Québec établit son salaire minimum autour de 46 % du salaire moyen. Ce n'est pas le Pérou, mais cela donne au salaire minimum québécois l'un des pouvoirs d'achat les plus élevés d'Amérique du Nord et le place au-dessus de tous les seuils de pauvreté qui existent au Canada. Qu'en est-il maintenant de l'évolution générale des salaires? On va regarder ça. Avant 1975, au Québec comme ailleurs en Amérique, le pouvoir d'achat salarial s'accroissait de 35 % par décennie. Depuis 35 ans, toutefois, il n'a pas augmenté d'un poil. Est-ce que cela dépend d'un ralentissement général de la croissance économique ou du fait que les employeurs se seraient en quelque sorte enfuis avec la poche? La diapo suivante élimine cette dernière hypothèse. Elle montre que la part du revenu intérieur qui revient aux salariés n'a pas vraiment changé au Québec depuis trois décennies. Cela signifie que la cause fondamentale de l'arrêt de croissance du pouvoir d'achat des salaires est que depuis 35 ans, l'économie peine à créer de la richesse et non pas que les employeurs sont partis avec la poche. Les appels à l'amélioration de la productivité prennent ici tout leur sens. Les salaires ne vont recommencer à augmenter en pouvoir d'achat que si la production par travailleur ou la productivité s'accélère. En résumé donc, depuis 1960, nous sommes allés à l'école en beaucoup plus grand nombre. Nous avons pratiquement comblé notre retard de niveau de vie sur l'Ontario. Notre maîtrise de l'économie a fait des progrès remarquables et nous avons bâti la société la moins inégalitaire d'Amérique du Nord. Comme diraient mes enfants, c'est du PSP, c'est-à-dire c'est pas si pire. Il est impossible de déterminer avec exactitude quelle part de nos succès du dernier demi-siècle est précisément attribuable à la Révolution tranquille. Chose certaine, elle a donné une bonne poussée à la scolarisation des jeunes, à la révolution féminine, au financement des entreprises, l'accès des entreprises aux capitaux, à la mise en place d'une infrastructure énergétique propre et à bon marché, ainsi qu'à l'accès des francophones à de meilleurs emplois, aux postes de commande et à la propriété des entreprises. Que nous reste-t-il à faire maintenant? Nous avons raison d'être fiers de ces progrès, mais tout n'est pas parfait, malheureusement. Nos sentiments envers l'État québécois se sont considérablement refroidis avec le temps. En 1960, l'État québécois était porteur de tous nos espoirs. Aujourd'hui, devenu omniprésent, il est source de beaucoup de frustration. Les ponts tombent, un trop grand nombre de nos enfants décrochent de l'école, encore, l'accès aux soins de santé est aléatoire, les milliards pour la santé semblent disparaître dans un trou noir, les infirmières sont à bout de souffle, les grands projets de construction sont lents à démarrer, puis une fois qu'ils démarrent, ils coûtent trois fois plus cher que prévu. Quand je dis les ponts tombent, là, c'est littéralement le cas. J'ai passé une heure et demie dans un bouchon hier parce que l'échangeur turco était bloqué, parce qu'il fallait faire des réparations d'urgence parce qu'ils avaient peur qu'ils tombent. Ces ratés multiples de l'État font le percevoir comme une grosse machine sans âme, sous-performante, étouffée par des bureaucraties administratives, syndicales et professionnelles qui se bloquent mutuellement. On a l'impression aussi que les groupes d'intérêt ont kidnappé le gouvernement, chacun cherchant à extraire le maximum d'avantages de l'État en faisant évidemment payer le reste de la collectivité, qui sont les contribuables. L'État est devenu la nourrice des entreprises et le Père Noël des régions. Nos grands secteurs protégés, comme l'électricité, l'agriculture, la santé et la construction, affichent des coûts inquiétants. Et depuis le fiasco financier des Jeux olympiques de 1976, le gouvernement essuie une crise financière majeure à tous les 14 ans. 82, 96, 2010, Watch Out 2024. C'est la loi de Fortin. À tous les 14 ans, on a une crise. Non, mais ça n'existe pas, là, mais en toute modestie, on pourra l'appeler la loi de Fortin. 82, la piscine, si vous vous rappelez bien, 96, les coupes. 2010, aujourd'hui, et il faut faire attention en 2024. Donc, c'est pas drôle, là, tu sais, je veux dire, donc, j'ai fait une blague, là, mais c'est sérieux, cette affaire-là. Ce que nous avons à faire désormais est assez évident. Si nous voulons sortir de ces crises financières à répétition et bien nous préparer au changement démographique qui est imminent, il est clair que nous devrons revoir en profondeur nos façons de faire en santé, en éducation et en gestion des infrastructures. Il faudra mieux protéger l'État contre les vautours, défaire les monopoles qui nous étouffent et privilégier partout l'émulation, puisque le seul moyen d'être forcé à l'excellence, c'est d'être mis au défi par d'autres qui font aussi bien ou mieux que nous. Demandez à Alexandre Despetit, il va vous confirmer ça. Comme M. Lévesque était tout à fait d'accord avec ça. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, notre grand défi économique au cours des prochaines décennies est de nous démarquer des autres provinces canadiennes en productivité et de rejoindre les États-Unis, comme nous venons de le faire pour l'Ontario. C'est notre génie économique qui va nous permettre de surmonter notre fragilité démographique. Il y va de l'image que nous aurons de nous-mêmes et de notre avenir dans le concert des nations. Si un si grand nombre de nos artistes, de nos écrivains, de nos scientifiques et de nos athlètes réussissent à dominer la scène mondiale, qu'est-ce qui empêche les artisans de notre économie, travailleurs et entreprises, de faire pareil? Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Période de questions. Il y a un micro à droite, il y en a un à gauche. Vous vous identifiez et vous posez une vraie question, pas un monologue, une vraie question, si possible, brève. Pendant que vous vous préparez, moi j'en avais une première, même si on peut tous s'imaginer des raisons pour répondre à ça. Vous n'avez pas dit de façon explicite pourquoi c'est constamment à l'Ontario que vous avez comparé le Québec. Pourquoi avoir choisi l'Ontario?
Je compare à l'Ontario parce que je ne veux pas nous comparer à l'Alberta. Je ne veux pas nous comparer à Terre-Neuve. Je ne veux pas nous comparer à la Saskatchewan. Pourquoi? Parce que ce sont des provinces dont l'économie repose à plus que la moitié sur les hydrocarbures. Et puis, bon, quand on aura du pétrole, 3 milliards de barils de pétrole sous Château-Frontenac, OK, je me comparerai à l'Alberta. Mais pour l'instant, je veux dire, ces économies-là sont sur une autre planète complètement. Le Canada, c'est une économie nationale qui est d'une très grande hétérogénéité. Et l'Ontario, c'est un naturel parce que c'est la plus grosse économie régionale au Canada. C'est la plus performante traditionnellement. Et elle a, par sa taille, sa diversité, son dynamisme, est comparable à la nôtre. Et j'ai fait exprès de faire attention. J'ai arrêté la comparaison avec l'Ontario, généralement en 2006-2007, parce que, bien sûr, dans la conjoncture économique actuelle, l'Ontario connaît des difficultés plus grandes que nous, parce que, bon, elle a l'automobile, et puis la finance, et puis ces secteurs-là ont été durement frappés. Donc, je nous compare à l'Ontario parce que il faut qu'on nous compare à l'Ontario. Parce que, puis aussi, c'est que l'Ontario et nous, on a un très grand nombre de facteurs qui nous influencent tous les deux en même temps. La conjoncture économique, par exemple, est en général la même en Ontario et au Québec. Par conséquent, si on veut observer un changement au Québec qui est vraiment un changement québécois, bien là, il faut enlever les facteurs qu'on a de commun avec les autres puis identifier le phénomène québécois lui-même. Bien sûr, dans certains cas, il se pourrait que la différence qui change en Ontario au Québec puisse provenir d'un changement en Ontario proprement dit. Mais à chaque fois, j'ai bien vérifié, puis dans l'ensemble, je suis content de moi.
Merci. Monsieur?
Mais plus tard, mais attention, là, plus tard, à partir de maintenant, j'arrête de me comparer à l'Ontario. Comme Mme Leroux nous suggère de le faire, on part à la chasse aux Américains.
Merci. Monsieur, vous vous présentez?
Mon nom est Jean Beauregard. Toujours intéressé à la situation économique du Québec, particulièrement la présente. Que penseriez-vous des prochains taux d'intérêt vont commencer à monter? Et est-ce que ça se calcule? On peut-tu prédire, par exemple, quelle va être la situation économique du Québec si on a une augmentation de 1 % 2 % ou 3 % quel sera l'impact de cette augmentation-là sur les finances du gouvernement du Québec? Puis, bien, une question, j'aimerais savoir. Moi, je crois que...
Peux-tu répondre tout de suite? J'ai peur d'oublier la première question que vous allez me poser. Je suis toujours concentré sur la dernière question. Bon, la réponse à ça, c'est que oui, les finances publiques sont fragiles de ce côté-là. Puis c'est une des raisons. On veut, dans le fond, avoir un endettement. Je veux dire, il n'y a personne ici qui va prétendre qu'on est rendu comme la Grèce. C'est imbécile de dire qu'on est comme la Grèce. Tu sais. Mais il ne faut pas tenter le diable non plus. Il y a deux raisons pour lesquelles il faut revenir à l'équilibre budgétaire rapidement. La première, c'est qu'il faut se préparer à la prochaine récession. La raison pour laquelle on a pu dépenser beaucoup, par exemple, pour les infrastructures, c'est qu'on avait une certaine marge de manœuvre pour emprunter pour ces infrastructures-là. Mais si on se met à s'endetter, on n'aura plus la marge de manœuvre. Puis si on a une grosse récession qui nous frappe en 2020, bien, on va être dans la hume la plus profonde. Okay? Deuxièmement, on a la dette sur laquelle on paie de l'intérêt, c'est 150 milliards de dollars. Alors, vous pouvez vous rendre compte par vous-même que ça n'a pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour comprendre qu'un taux d'intérêt 1 % plus élevé sur 150 milliards de dollars, ça fait 1,5 milliard de plus à dépenser par le gouvernement du Québec. Donc, il faut prier Saint-Jude que les taux d'intérêt n'augmentent pas trop. Bien sûr, si les taux d'intérêt augmentent de 1 %, c'est pas toutes les obligations qui vont coûter plus cher à l'instant, parce qu'il y en a qui sont émises pour de très longues périodes, puis les taux d'intérêt vont rester bas sur celles-là. Mais si la hausse est permanente, là, ça va être plus coûteux. C'est pour ça qu'il faut être prudent de ce côté-là. Quant à l'économie québécoise, bien là, je ne peux pas faire autrement que d'être enthousiaste, mais méfiez-vous, je suis un optimiste. Alors, méfiez-vous de moi, de mon... Okay. Mais ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est Il y a deux raisons pour lesquelles l'économie québécoise a passé beaucoup mieux que les autres à travers la récession. C'est un, on a eu par hasard la brillante idée de partir des dépenses massives en infrastructure juste au moment où on entrait dans la récession. Donc, ça a stabilisé beaucoup l'économie. Puis deuxièmement, évidemment, on n'a pas d'industrie automobile. On a chialé pendant toutes sortes d'années parce qu'on perdait notre industrie automobile. Puis effectivement, à Boisbriand, il y avait raison de se plaindre. Mais là, dans le moment, c'est comme si on avait un retour favorable de ce côté-là. Le fait qu'on n'ait pas d'industrie automobile a protégé le Québec contre la récession.
Okay. Une rapide sous-question.
Deuxième question. La sous-capitalisation, en fait, il y a eu une perte de la Caisse de dépôt de 40 milliards il y a deux ans, une meilleure performance l'année passée. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la revue des rentes est sous-capitalisée de 20 %. Donc, si on se met à calculer 40 milliards plus un autre peut-être 10 ou 20 milliards, ça fait 50 milliards de dollars. Là, la Caisse de dépôt a fait 10 % l'année passée. Ça veut dire que sur 50 milliards qu'on n'avait pas, on vient de perdre un autre 5 milliards. Mais ça, c'est pas calculé dans la dette, mais c'est de l'argent dû pareil. Alors, si on calcule les sommes d'argent, parce qu'une dette, il y a les sommes d'argent qu'on doit. De l'autre côté, il y a les sommes d'argent qu'on n'a pas.
Les régimes de retraite, devrait avoir. Ouais, les régimes de retraite qui sont inclus dans la dette du Québec, ce sont les régimes de retraite des enseignants, des travailleurs de la santé et des fonctionnaires, okay? Des employés de l'État. Okay. Le régime de rente du Québec, c'est un régime qui fonctionne en dehors du budget du gouvernement. Évidemment, si à un moment donné, il manque de l'argent, mais là, les cotisations vont augmenter ou bien ils vont allonger la période où tu vas devoir rester au travail avant de retirer la prestation. Mais je suis entièrement d'accord. Il y a deux choses qu'il faut distinguer. Il y a la baisse des taux d'intérêt qui est mondiale et qui a frappé l'économie mondiale depuis à peu près le milieu des années 90, qui fait que tous les régimes de retraite dans le monde sont pris avec le même problème. Les taux d'intérêt sont plus bas que prévu. Et à cause de ça, ou bien les prestations vont être plus basses, ou bien il va falloir que les cotisations augmentent. OK? On est pris avec tout le monde avec ce problème-là. L'autre aspect, c'est la perte ponctuelle de 40 milliards de la Caisse de dépôt et placement. Deux choses là-dessus. Personnellement, je m'excuse encore, mais je suis plus optimiste que la moyenne. Les PCA, les obligations adossées à des... le papier commercial adossé à des actifs... La personne qui est le grand financier torontois, Purdy Crawford, a dit que éventuellement, en un certain nombre d'années, les gens qui détenaient ce papier-là vont finir par en récupérer à peu près 90 %. Alors, on a là-dessus, je ne sais pas, un 15 milliards là, qui devrait revenir peu à peu dans le giron de la Caisse. Et puis, dans l'intervalle aussi, bon, les marchés financiers, ça monte puis ça baisse. Là, ça a baissé, il y a eu une méchante drop, mais il est fort possible que ça remonte après. Disons que, en tout cas, je l'espère, là, mais arrêtez d'être trop pessimiste. Allez prendre une coupe d'Ativan, puis... je vais juste vous taquiner un petit peu, là, tu sais. Je pense qu'on est trop pessimiste sur l'avenir de ce côté-là. Ça veut pas dire qu'il faut pas prendre le problème au sérieux, là, mais on va avoir des bonnes années comme des mauvaises, comme on a eu des mauvaises.
Merci beaucoup, monsieur. À
la comtesse de Ségur l'a dit, d'ailleurs, après la pluie, le beau temps.
Monsieur, vous présentez, question.
Alors... Je m'appelle Alex Gornay. J'apprécie beaucoup l'initiative de la bibliothèque. Et j'apprécie aussi l'analyse en profondeur du conférencier. Mais ma question est à savoir, avant 1950, toutes les révolutions dans le monde ont eu un grand effet sur les 5 continents. Pourquoi la révolution tranquille après 50 ans, n'a pas déterminé la souveraineté du Québec et n'a pas eu une grande évolution sur l'économie des pays du tiers-monde? Est-ce qu'il est possible qu'en Haïti, qu'on réalise la révolution tranquille?
Bon, je ne vais pas transformer ma présentation en commentaire sur le plan politique, mais je vais vous dire quelque chose. Je suis convaincu qu'une grande partie de la population du Québec, quand on lui parle de voter oui à un référendum sur la souveraineté du Québec, dans sa tête, ça veut dire essentiellement, bien là, plutôt que d'avoir 50 % de l'État à Ottawa puis 50 % à Québec, bien, ça va être 100 % à Québec. Or, comme j'ai mentionné, à l'heure actuelle, l'État est source de profonde frustration de la part de l'ensemble de la population. Okay? À mon avis, cette situation-là est une des plus grandes épines dans le pied des souverainistes. Et s'ils veulent éventuellement atteindre leur objectif, je pense qu'il faut prioritairement qu'ils contribuent à redresser cette situation-là. On ne peut pas demander aux gens de voter pour l'indépendance quand on a un demi-gouvernement qui laisse les ponts tomber, qui nous dit, bien là, ça fait 10 ans qu'ils nous disent qu'il n'y aura plus de retard aux urgences, il n'y aura plus d'attente aux urgences. Le décrochage, on va régler ça, etc. Tu sais, je veux dire, on nous a fait beaucoup de promesses, et puis les promesses ne sont pas livrées, et il y a beaucoup de frustration dans l'air. Je pense que quand les gens vont redevenir fiers de l'État québécois, là, les souverainistes vont pouvoir peut-être penser de prendre le pouvoir. Je vous dis pas ce que moi je désire là, comme personne en moi, mais je constate que tant que l'État québécois va être source de frustration plutôt que d'espoir, ça va être très difficile pour eux de remonter la côte. S'il y a un lien entre ce que j'ai dit sur le plan économique et votre préoccupation sur le plan politique.
C'est possible de poser une autre question?
Bien, si vous permettez, c'est parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui attendent et on arrêterait après les gens qui sont déjà là à attendre au micro. Donc, monsieur?
Ulysse Brodeur, bonjour, merci pour votre conférence. J'ai une question, je l'ai écrite parce que je ne voulais pas être trop nerveux. Vous semblez voir une corrélation, vous l'induisez comme une majorité d'économistes de votre génération, entre la productivité ou le PIB et le bonheur national. Comme on sait maintenant qu'il y a un lien entre croissance économique et les menaces sur la vie sur Terre, sur l'écologie, l'environnement et tout ça, ne croyez-vous pas que votre manière strictement économiste de voir le monde peut mener à sa fin, à la fin du monde? Est-ce qu'il ne faudrait pas changer notre manière de compter, de voir, de se poser ces questions-là?
Okay. Je vais te répondre de deux façons. La première est très personnelle. Okay? Je suis moins engagé comme animateur d'un groupe de recherche international sur le bien-être afin d'étudier l'identité, les interactions sociales et leurs conséquences sur le bien-être. Donc, pour moi, là, personnellement, je suis engagé dans une définition du bonheur des gens, du bonheur humain, qui est très nettement au-delà de la croissance économique. Par contre, il ne faut pas aller de dire... Il y a bien d'autres choses que le produit national brut qui est important, d'aller au point de dire que le produit national brut n'est pas important. Hein? Je veux dire, si tu l'as vu baisser, le produit intérieur brut, de 2 % d'un ou 2 % au Québec ces dernières années, mais là, je veux dire, les gens, ça veut dire que le chômage augmente, puis le chômage, ça fait mal à beaucoup de monde. Okay? Donc, je pense que ce que ça prend, c'est une approche qui est équilibrée, et qui prend acte du fait que oui, il y a plein d'autres choses qui affectent le bonheur, même matériel des gens, que tout simplement le revenu. Il y a le temps libre, j'ai insisté sur le temps libre, je ne sais pas si tu écoutais à ce moment-là, mais là, ça, c'est en dehors du produit intérieur brut, j'ai quand même insisté là-dessus. Il y a aussi le chômage, j'ai beaucoup insisté sur le chômage. Un niveau de chômage, c'est moins de PIB. Moins de revenus produits, de production, moins de revenus engendrés dans une économie, dans une société, et donc il y a une perte de PIB. Mais il y a beaucoup plus que ça. Quand tu deviens chômeur, très souvent, tu perds ta dignité humaine et tu perds ton estime de soi. Ça engendre des pathologies individuelles, personnelles, sociales, familiales. Le divorce suit souvent, etc. Donc, il y a par conséquent un impact beaucoup plus important sur le bonheur, sur le bien-être des gens, que tout simplement son impact sur le produit intérieur brut. Je peux te nommer la santé, qui, elle aussi, évidemment, la santé a beaucoup plus d'impact sur le bonheur que simplement sur le produit intérieur brut, là, c'est évident. Aussi, je sais pas, les relations de confiance qui existent dans une société, c'est absolument fondamental. Je veux dire, d'ailleurs, Gilles Paquette, qui est venu faire la dernière conférence ici, c'est une de ses grandes préoccupations. Il voit dans la période qui a précédé 1960 de très solides liens d'entraide communautaire qui existaient à l'époque et qui ont été remplacés par des bureaucraties informes, qui sont des bureaucraties étatiques, je le cite, là, qui ont détruit, qui ont fait pratiquer la coupe à blanc dans le capital de confiance qu'on avait dans notre société. Donc, c'est toutes des préoccupations qui dépassent très nettement le produit intérieur brut, là.
Mais si on compare la croissance économique et l'impact de cette croissance-là, c'est à ce niveau-là, moi, que je me demande s'il ne faudrait pas réfléchir à une nouvelle manière aussi de compter et de calculer sur l'impact de cette croissance
absolument.
Économique-là sur la Terre.
Absolument. Il faut... Notre objectif, ça ne doit pas être d'augmenter le revenu des riches. Notre objectif, ça doit être d'augmenter le revenu de la classe moyenne et puis des gens qui sont mal pris au bas de l'échelle. Okay? Puis d'autre part, aussi, de s'arranger pour que on ait encore une planète pour faire de la production dans les 100 prochaines années. Là,
ça
donc,
bien, oui.
À mon avis, les deux grands problèmes mondiaux qu'on a à résoudre, c'est celui de la pauvreté, d'une part, et celui de l'environnement, d'autre part. Il n'y a aucun doute là-dessus.
Merci. Monsieur?
Oui, Léopold Landry. On cherche une solution pour le système de santé. Pensez-vous que en donnant une plus grande place au privé, ça va régler le problème ou ça va l'améliorer?
Ça dépend comment c'est fait. D'abord, le privé, c'est des bandits. Okay? Le capitaliste puis le banditiste, c'est la même chose. Le capitaliste donne des bons résultats à condition que tu mettes des garde-fous. On le sait, quand il n'y a pas de garde-fous, c'est les fous qui mènent. Okay. Par conséquent, si on met le privé dans la santé, il faut le faire avec, en gardant à l'esprit que les gens du privé qui vont être dans la santé, leur objectif central, bon, je sais qu'il y a du bon monde dans ça aussi, là, mais leur objectif central, ça va être la rentabilité. Okay. Nous, dans le secteur public, notre objectif, en utilisant les forces du privé, ça va être de les manipuler de façon qu'il y ait plus d'argent à faire en faisant des choses qui font du bien au monde qu'en faisant des choses qui font du mal au monde. Comprends-tu? Ça prend un design d'institution pour faire en sorte que ce banditisme-là, il est au service du bien-être de la population. Okay. Je trouve stupide le discours qui dit « privé, c'est pas bon ». Il faut pas être gaga du privé. Il faut être conscient de des objectifs qu'il poursuit. Mais, je veux dire, le fait qu'on ait des économies qui marchent, vous voyez que nos économies marchent parce qu'on a des réglementations, des lois qui empêche les gens de se voler les uns les autres, de s'entretuer, etc. On ne réussit pas toujours, les bandits sont toujours une étape en avant de la police. T'sais. Mais, je veux dire, c'est comme ça qu'on va réussir. Et non seulement ça, je pense que si on ne fait pas intervenir le privé au Québec dans les années qui viennent, dans la santé, on va manquer notre coup avec le public. Je ne connais pas personnellement le système belge ou le système français de plusieurs pays européens. Mais les économistes, les amis belges, français que je connais, me disent que quand tu vas d'un hôpital public en France, en dedans de 20 minutes, ton problème est résolu. Tu n'attends jamais à l'urgence. Okay? Pourquoi c'est comme ça? Bien, eux, leur explication, puis l'explication des chercheurs français eux-mêmes, puis de l'OCDE également, c'est qu'ils disent qu'ils ont un petit secteur privé qui compte pour à peu près 20 % des hôpitaux. Et puis, si le public ne fait pas bien sa job, ils savent qu'ils vont perdre le client, le patient, au privé. Par conséquent, ils se grouillent le cul. Comprenez-vous? Alors, c'est ça que je voulais dire tantôt à mots couverts, en disant, ce que ça prend, c'est de mettre de l'émulation partout. Et on peut le faire de façon très humaine et en s'assurant que tout le monde reçoit les soins auxquels ils ont droit de s'attendre. En tout cas, merci. C'est la manière dont... En d'autres mots, je trouve imbécile, et je répète, imbécile, de voir le privé et le public en opposition l'un avec l'autre. Il faut que le public soit dominant et se serve du public pour améliorer sa propre performance dans les circonstances qui vont être les nôtres bientôt. Parce que, je veux dire, le choc démographique, le vieillissement, ça va être... pour avoir du monde, ils sont nombreux, les bébés boomers. Puis en plus de ça, ils n'ont pas fait d'enfants. Donc, on n'aura pas beaucoup de contribuables pour financer tout ça. Il va falloir trouver un moyen de moyenner à travers tout ça.
Dernière question.
Oui, bonsoir. André Poupard. Dans votre article récent dans la presse, je pense que vous nous invitez à l'autocritique. Et comment se fait-il qu'avec des entreprises de génie conseil qui vont partout dans le monde, on ne laisse pas avoir des viaducs qui tiennent, puis des échangeurs qui ne risquent pas de s'effondrer. Comment ça se fait qu'avec des facultés de médecine comme on a, on n'est pas capable de prendre, et des facultés d'administration, on n'est pas capable de gérer des dossiers le moindrement important, comme le dossier du CHUM ou de régler la question des listes d'attente dans les hôpitaux? La question, c'est pourquoi?
Nos grandes entreprises de génie conseil...
Comment se grouiller le cul pour régler les problèmes?
Moi, ce que je pense, c'est que nos grandes entreprises de génie conseil, justement, ont tendance beaucoup à aller à l'extérieur parce qu'ils ont de la misère à l'intérieur ici. Bon, je suis d'accord avec vous qu'il faut se poser la question. Un des problèmes qui se produit, puis ça a été étudié en détail par le juge Lesage dans le rapport qu'il a présenté sur le fiasco de la Gaspésia, qui est l'exemple classique de quelque chose qui a foiré, c'est qu'au départ, il y a eu une implication politique, disons, avec les meilleures intentions du monde, là, aider la Gaspésie. Y a-t-il quelqu'un qui ne veut pas aider la Gaspésie? T'sais? Sauf qu'au départ, il y a eu des évaluations qui ont dit, bien, là, le rendement de ce projet-là, ça va être économiquement bien en dessous de ce qui est nécessaire pour que ça passe n'importe quel critère de rentabilité. Bon, malgré ça, ils ont dit « on va y aller quand même, on va prendre une chance ». Et pourquoi par la suite? Bien, il y a eu aussi le fait que les soumissions, c'est le régime de soumission, je ne suis pas un expert dans les régimes de soumission, les types d'appels d'offres qui sont faits, il y a eu beaucoup de soumissions qui ont été faites vraiment en dessous de ce que les gens pensaient que ça coûterait. Alors, il y a eu des, comme on dit, des temps qu'à y être et des, d'une part, donc des augmentations d'envergure de projet, il y en a tout le temps, parce que les gens cherchent à, par exemple, au niveau de ceux qui ont conçu le projet, les gens cherchent à mettre de l'avant les chiffres les plus modestes possibles pour ne pas faire peur à la population. Et donc, la conséquence, c'est que une fois qu'on commence le projet, on se rend compte qu'il manque, il y a des fils qui pendent partout, il y a d'autres choses à ajouter, etc., puis ça coûte plus cher. Et puis, bon, on a des problèmes de relations de travail sur les grands chantiers industriels aussi, il faut penser à ça. Je ne vais pas entrer dans le détail là-dessus, là, mais on a des problèmes de gestion sérieux de nos chantiers industriels parce que le contrôle de la main-d'œuvre est par les services de placement syndicaux. Et à un moment donné, le travailleur singulier ne sait plus c'est qui son vrai patron. Est-ce que c'est son représentant syndical ou si c'est l'entreprise qui l'embauche? Puis s'il n'écoute pas l'entreprise, bien là, il va perdre sa job. Puis s'il n'écoute pas ce que le représentant syndical lui dit de faire, il va sûrement la perdre là aussi. Et donc, on a un problème de détermination claire des lignes de direction, des lignes d'autorité sur les chantiers de construction. Donc, il y a ça aussi. Pour le reste, je ne sais pas, là, il y a des analyses politiques qui me dépassent. Je suis poche en politique, là.
Mais est-ce que c'est, disons, tout à fait juste de dire qu'il faut beaucoup plus d'entreprises privées? J'écoute votre discours, puis je comprends qu'il faut peut-être pas plus d'État, mais un État qui est mieux organisé, qui prend les bonnes décisions, qui est plus cohérent.
Il pourrait être plus gros ou plus petit. Je veux dire, ce qui est important, c'est qu'il soit capable de livrer les choses. Premièrement, il faut regarder s'il fait trop. Si on trouve qu'il fait trop, bien, on l'amincit. Puis si on trouve... Il y a une autre façon de l'amincir, c'est lui faire en sorte qu'il livre la même quantité de services, mais à un coût plus bas. Essayer de mieux s'y prendre, c'est ça l'innovation. Je veux dire, dans la mesure, il y a de la gerniguane, puis moi, je connais bien des employés du secteur public, ils ont plein d'idées. Je connais bien des enseignants aussi qui ont plein d'idées dans la tête pour améliorer le système, mais ils sont bloqués par des grandes bureaucraties qui font du mur à mur. Hier, j'étais en train de m'acheter un livre sur la rue Vittoria à Saint-Lambert, puis il y a une ancienne gardienne, ou non, il ne faut pas dire gardienne, éducatrice de garderie qui est venue me voir. Elle me dit « Bon, j'étais gardienne de votre fils ». Et puis, je suis dans une école de la Commission des écoles de Montréal. Et mon problème fondamental, c'est que mes élèves normaux, ils progressent à peu près à 70 % du rythme auquel ils seraient capables de progresser. Pourquoi? Parce qu'on me force de garder à l'intérieur de ma classe 3-4 élèves qui sont très retardés, et je suis obligé d'accorder tellement d'attention à ces enfants-là, qui le méritent, que je laisse de côté tous les autres, et puis ça fait des élèves, finalement, qui, premièrement, sont tannés de l'école, ils n'avancent pas, ils trouvent que ça ne sert à rien, etc. Donc, on a des... Pourquoi c'est comme ça? Mais parce qu'il y a eu une décision quelque part qui a dit, bien, c'est un grand geste humain d'intégrer tous les gens qui sont en difficulté avec les autres. Mais là, ce qu'on est en train de faire, on est en train, ces gens-là qui ont un retard, bien, on est en train de retarder la majorité. Donc, il faut un moment... Puis, il y a des écoles qui voient le problème, qui comprennent le problème, qui seraient capables de le résoudre, mais ils n'ont absolument pas l'autorité pour le faire. Puis, s'ils essayent de le faire, bien, ils vont perdre leur job. Comprenez-vous? C'est ça qu'il faut changer. Peut-être décentraliser le système, donner plus... Je ne suis pas à déquiste, là. Ils veulent abolir les commissions scolaires, là. Je ne suis pas rendu à déquiste. Mais il faut quand même essayer de voir que... je donnais dans une chronique que je viens d'écrire pour l'actualité l'exemple de l'école secondaire Paul-Germain-Ostigui de Saint-Césaire. Bon, ces gens-là, à un moment donné, ils ont eu un flash. On dit pourquoi on ne prendrait pas les enfants, des ados de 3e, 4e et 5e secondaire, et puis on les met 2 jours par semaine en entreprise... dans des stages non rémunérés, on les fait travailler en anglais, français, mathématiques les 3 autres jours de la semaine. Yeah! T'sais, on prend, sur 750 élèves, ils en ont pris 100 qui sont tous des décrocheurs potentiels. Tous des décrocheurs potentiels. Okay? Ils ont mis dans un système comme ça, 3 jours en classe, 3 jours en entreprise pendant 3 ans de temps. Au bout de ça, tu as eu un taux de succès à la fin de 83 %. Ça aurait été, je ne sais pas, 10, 15 % qu'il y aurait eu autrement. Mais ça, c'est une initiative locale. Ça n'a pas été conçu au ministère de l'Éducation. Ce n'est pas Régent Parent non plus qui l'a négocié. OK? Et pourquoi je dis ça? C'est parce que ces gens-là ont eu toutes les difficultés du monde à maintenir leur programme. Ils ont été de l'avant malgré qu'ils étaient en dehors de la coche, parce qu'ils pensaient que ça réussirait. Puis ils cherchaient le bien des enfants, des ados. Il ne faut pas les appeler les enfants. Ils vont me tuer, là. Mais Mais et alors là, évidemment, à la fin, ils ont été obligés d'aller avec des pancartes, des délégations des entreprises du coin, etc. Puis finalement, le ministère de l'Éducation a accepté de continuer l'expérience et tout et tout. Mais vous voyez, c'est tellement difficile de faire de l'innovation dans un système comme ça. Ce qu'on veut, c'est que l'innovation vienne. Je veux dire, il y a tellement de gernigouane dans une tête de Québécois, Carl-Boire.
Mais
excusez, si vous permettez, je vous invite à continuer la discussion, parce que là, c'est comme un dialogue avec M. Fortin, si vous permettez, après la conférence. Je remercie encore une fois Pierre Fortin et je vous invite tous à la reprise de nos conférences le mardi 14 septembre prochain. Notre invité sera Alain Dubuc, que je salue, et économiste et chroniqueur à la presse, qui sera donc celui qui va lancer la nouvelle saison à l'automne. Et à tous, je souhaite bonne fin de soirée et bon été. À bientôt.